Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Avec notre invité du jour, vous allez le reconnaître immédiatement car c'est l'une des têtes de gondole incontournables du groupe M6. Alors, il ne vend pas d'appartement, il ne fouette pas les blancs d'œufs pour briller dans le meilleur pâtissier. Lui, sa spécialité, c'est l'info, l'info claire, précise, concise et efficace. Une actualité pas toujours rose, hein, surtout en ce moment qu'il nous dévoile dans son JT du soir. Et développé également dans son magazine d'information Le Week-end. Et comme sa plume retrouve un appétit démesuré, il tente de la combler en la laissant s'aventurer de temps à autre dans l'univers du roman dont on va parler également. Et sa particularité, c'est que là où elle passe, l'indifférence trépasse. C'est votre plume, Xavier Demoulin. Et c'est vous qui êtes là avec nous ce matin. Ravi de vous accueillir. Vous présentez évidemment tous les soirs, est-il besoin de le rappeler, le JT que l'on connaît tous, 19.45, 19.2.45 sur M6. Et vous avez sorti le 6 janvier le livre intitulé « Mon garçon » aux éditions Flammarion, qu'on va découvrir dans quelques instants, quasiment un an jour pour jour après votre dernier livre qui s'appelait « Le petit chat est mort ». Est-ce que vous souffrez d'une espèce de boulimie romanesque ou est-ce que c'est le confinement qui vous a redonné des envies
Ah non, le confinement, il ne pousse pas. Moi, il ne m'a pas vraiment poussé à la créativité. C'est vrai. Ça, le confinement. Non, je pense qu'il y a... moi, je suis avec le réel toute la journée, vraiment...
ancré dans le bon réel.
Et ancré dans le réel. Et donc, finalement, il y a un espace romanesque qui est plus celui du repos du réel, en fait. Et donc, c'est assez complémentaire. Ça peut paraître schizophrénique, mais c'est très complémentaire. Le réel dur, pur et dur. Et puis, derrière, l'espace romanesque qui permet un peu de cicatriser du réel pour essayer d'aller chercher autre chose. Et puis, de parler différemment aux autres aussi. Okay. Donc, c'est un appétit, confinement ou pas confinement. Ça n'a rien à voir avec la période. C'est mon 8e roman qui est sorti le 6 janvier, vous l'avez dit. Voilà, donc c'est...
Depuis 10 ans, vous avez un rythme assez régulier, hein, tous les ans, tous les 2 ans à peu près. Vous imposez ça ou...
Non, je n'impose rien.
Quand l'idée vient,
d'accord. Non, moi je ne m'impose rien. J'ai écrit beaucoup avant. Mm-hmm. Et il se trouve que c'est depuis 10 ans que je publie régulièrement des livres. Mais je ne m'impose rien. Il y a eu des moments où c'était tous les 2 ans. Là, vous l'avez dit, il y a eu Le petit chat est mort.
Il y a un an, ouais.
Là, il y a Mon garçon. Voilà, ouais. Je ne veux pas suroccuper l'espace des librairies non plus. Mais non, c'est juste... Comme ça.
Ça tombe à ce moment-là.
Ça tombe à ce moment-là.
On est en direct sur Figaro Live, sur tmag.com et bien sûr sur la page Facebook de TV Magazine, cette page Facebook que Damien Canivez tient avec une attention toute particulière aujourd'hui et sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. On vous attend à Xavier Demoulin. Est-ce que vous le suivez chaque jour? Que pensez-vous de son JT? Regardez-vous le magazine 66 minutes? Avez-vous lu ses romans? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, il répondra à tout cela après les news médias du célèbre Damien Canivez. Salut Damien.
Merci Nicolas, je ne passe plus les portes avec mon
nom. Je vous les ai laissés. Bonjour
Xavier. Si, célèbre.
Célèbre, je vous ai laissé mon ribin pour le virement, on fera comme d'habitude. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. Qui est en tête?
C'est assez rare pour être souligné, figurez-vous Nicolas, mais c'est la fiction américaine qui s'est imposée en tête du classement.
Ça devient rare.
Des audiences, effectivement. Les deux épisodes inédits, diffusés dans le désordre d'ailleurs par TF1 de SWAT, ont fédéré 4,1 millions de téléspectateurs, ce qui représente 18% du public. C'est seulement 400 000 téléspectateurs de plus que France 3 qui rediffusait le téléfilm français Quelque chose a changé avec notamment Pierre Arditi. M6 atteint la 3e marche du podium grâce à la finale de Lego Master qui signe un score en hausse sur une semaine. 2,7 millions d'amateurs de briques ont applaudi la victoire de David et Sébastien.
À cause de vous, j'ai regardé. Hein.
Ah bah oui, c'est formidable
cette
enfants, émission.
Mes enfants, là, vous m'avez mis dans une...
Très addictif.
Ah, c'était terrible.
Vivement la saison 2, hein, moi je vous le dis. Et on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit de France 2 qui signe néanmoins un score en hausse par rapport au précédent numéro. Il s'agissait de Prenez soin de vous, présenté par Michel Simès, 1,8 million de patients, 8,3% du public.
Alors M6, c'est l'une des rares chaînes, hein, la chaîne par laquelle vous travaillez, je ne dis pas ça pour ça, qui tente des concepts inédits dans les émissions, on va dire, de flux. Notamment, TF1 a dévoilé il y a quelques jours ce qu'on appelle sa line-up pour l'année 2021. Il y a une seule nouveauté dans les émissions de flux. Après, évidemment, il y a les Koh-Lanta, il y a les The Voice, toutes les émissions qui marchent. À M6, Opération Renaissance de Karine Lemarchand, même si ça n'a pas très bien fonctionné, Lego Master, est-ce que... c'est dans l'ADN de la chaîne de tenter des choses et de ne pas forcément rester sur ses acquis.
Faudrait en parler avec Thomas Valentin et Guillaume Charles. Je pense qu'effectivement, ils osent des choses. Lego Master, c'est un succès. Enfin, c'est incroyable, ce programme.
Sur les cibles, notamment commerciales.
On invente un truc pareil. Moi, ça me fascine toujours. Je n'ai pas de flux du tout. Hein. L'information, ça reste très classique. Et puis après, installer une marque, et ça, Thomas Valentin en parle très bien, ça prend énormément de temps. C'est un risque très important. Et je pense qu'ils y arrivent. Et il faut pouvoir oser, faut y croire, faut innover. Et M6, dans ce sens-là, est une chaîne qui innove sans arrêt.
Damien, On continue avec LCI qui a décidé de mettre à l'écart Alain Finkielkraut.
Oui.
On l'a appris hier.
Et exactement, la chaîne d'information en continu du groupe TF1 a décidé de se séparer du philosophe qui officiait depuis la rentrée en tant que chroniqueur à raison d'une fois par semaine. C'est ce qu'elle a annoncé hier soir dans un communiqué envoyé aux rédactions. LCI lui reproche en fait d'avoir tenu des propos choquants lundi lors de 24 heures Pujadas, l'émission incarnée par l'ancien présentateur du 20h de France 2. Alain Finkielkraut souhaitait partager son point de vue sur l'affaire Olivier Duhamel, ce politologue, vous le savez, maintenant accusé de gestes incestueux sur son beau-fils âgé à l'époque de 13-14 ans. Dans un premier temps, le chroniqueur de LCI a qualifié ses actes de crimes abominables, très graves et inexcusables selon lui. Mais un peu plus tard, il a pointé du doigt ces plateaux de télévision qui se sont transformés, d'après lui, en tribunaux. Y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu une forme de réciprocité? C'est ce qu'il s'est demandé et c'est précisément à cause de ces questions, hein, de ce passage en particulier, que LCI a décidé de le mettre à l'écart. Et auprès de nos confrères du Parisien, il a réagi. Il a tenu il a regretté en tout cas que cette décision soit d'une incroyable goujaterie, c'est ce qu'il a déclaré. Et puis il se dit également sous le choc.
Aujourd'hui, vous avez évidemment suivi ça, Xavier. Un moindre mot de travers aujourd'hui sur une chaîne télé, sur ce genre d'affaires, c'est impossible.
Il n'y a pas, le moindre mot, c'est juste abject, point. Cette histoire est abjecte, point. Il faut la condamner, point.
Fermement.
Il n'y a pas de nuance à avoir sur ce...
C'est cette nuance-là qui est dérangeante, en l'occurrence.
Il n'y a, pas à débattre plus que ça, quoi. C'est horrible et atroce. Et donc, moi, je condamne tout. Il n'y a pas de place pour la nuance, surtout sur une chaîne. Il n'y a jamais de place pour la nuance sur ces sujets-là, et encore plus sur une chaîne de télévision, quand on a des responsabilités et quand on a tous ces outils, cette connaissance et cette culture-là.
Et une chaîne d'info évidemment sérieuse comme LCI. Ces dernières années, justement, je voulais rebondir là-dessus, les émissions de débat ont fleuri sur les chaînes d'info, on l'a vu. Évidemment, ça ne coûte pas cher à produire. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un espèce de basculement aujourd'hui entre le journaliste factuel, ce que vous faites vous, et le journaliste d'opinion qu'on voit fleurir? Mais alors partout, hein, évidemment, on parle beaucoup de CNews, mais ça existe sur BFM, ça existe sur LCI. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'émission? Est-ce que vous pensez qu'on bascule de plus en plus vers un journaliste d'opinion aujourd'hui?
Je pense que le débat, c'est très sain et important qu'il existe dans notre pays, dans le monde d'aujourd'hui, où on sent quand même les choses se tendent et que la diversité d'opinions et de points de vue, moi je trouve ça très nécessaire. Après, il y a des orientations et puis il y a des débatteurs qui ne sont pas là que pour trier les fèves. Et il y a des échéances aussi qui arrivent, politiques, et donc il y a une pensée qui se met en place. Et aux responsables de chaîne d'être vigilants. Après, comme dirait l'autre, comment on fait son lit, on se couche.
Ouais.
Donc, il ne faudra pas m'expliquer dans deux ans que, si, tout ça, ça se prépare en amont. Donc, la diversité, oui, le débat, oui, mais il y a certaines personnes et certaines choses qui, moi, me...
Oui, c'est qui, en particulier, c'est News.
Non, mais c'est tout. Et,
on aura compris.
Je ne suis pas là pour faire un tribunal, mais je dis juste qu'il y a un moment, ça va, quoi. La parole, vous savez, il y a deux options. Hein. Soit vous pouvez l'utiliser soit en magie blanche, soit en magie noire. Et moi, je préfère la magie blanche à la magie noire, quoi.
Mais est-ce que ça vous choque qu'une chaîne...
Est-ce
que ça vous choque qu'une chaîne fasse la même chose qu'un journal, j'allais dire? Libération est plutôt un journal de gauche, Le Figaro de droite,
chacun... Des débats contradictoires, qu'on en a un de droite, un de gauche, etc. Tout ça, ça s'oppose, c'est très sain pour la démocratie.
C'est quand ça devient trop à sens unique, c'est ça qui
vous dérange? Par exemple. Et puis il y a des trucs comme ça qui passent crème aujourd'hui, qui ne seraient pas passés il y a 5-6 ans.
Affaire à suivre en tout cas. Ouais. On termine, Damien, avec l'arrêt d'une série phare de TF1. Les téléspectateurs sont déjà en deuil.
Ah oui, alors attention, âme sensible, s'abstenir. Là, c'est du lourd, c'est la fin d'une époque, une véritable page qui se tourne définitivement. Après 18 saisons, 119 épisodes, Alice Nevers tire sa révérence.
Non.
Fini, je savais que ça allait vous faire de la peine. Selon nos confrères d'Allociné, la première chaîne ne commandera pas de nouveaux volets en raison de scores en baisse, notamment sur les cibles prioritaires et la fameuse ménagère que vous connaissez bien ici. Les derniers épisodes inédits de cette série qui raconte l'histoire de cette magistrate incarnée par Marine Delterme que vous voyez à l'écran ont été diffusés en novembre dernier. Mais rassurez-vous, les inconditionnels de cette fiction pourront malgré tout retrouver leur personnage favori assez vite car ils débarqueront au cours de deux épisodes dans la prochaine saison de Section de Recherche qui débute fin janvier. En fait, c'est un crossover entre les deux séries.
Absolument. Et 18 saisons, on le rappelle, avec le premier juge qui est incarné par Natacha.
Oui,
c'est quand même une belle longévité en télé. Vous êtes très série, vous aussi, Xavier, est-ce que vous regardez un peu partout? Vous regardez les plateformes comme tout le monde, Netflix, Amazon,
Disney. Je regarde un peu partout. Après, les plateformes, c'est un budget quand même, à un moment, si on veut suivre tout ça. Moi, j'aime pas du tout regarder des programmes sur des films ou des séries piratées. En tant qu'auteur, je respecte les droits d'auteur et je pense que j'achète scrupuleusement tout ce que je regarde.
Toutes les séries. Et vous êtes du genre à binger toute la soirée
Non, mais j'ai un toc, c'est que j'ai besoin d'avoir toute la série en me disant que je peux la voir toute la soirée.
D'accord.
En fait, je le fais jamais parce que je m'endors au bout du deuxième épisode, sans des trucs dramatiques, etc. Mais c'est vrai que je suis assez client. Et puis parfois, parfois j'arrête, parfois je continue, parfois j'ai des surprises. Voilà. La dernière série qui, moi, m'a bluffé, c'est Atoufine.
Série israélienne.
Sur Arte. Et j'aime beaucoup les séries Arte. En ce moment, il y a pas mal de choses à re-regarder comme ça. Ce film, j'avais jamais entendu parler. Plein de gens m'en parlaient. La saison 2 est dingue. Voilà, ça, c'est mon dernier coup de cœur. Donc, je peux m'accrocher comme ça, comme un dingue. Mais j'ai besoin d'avoir tout.
De savoir.
C'est débile. C'est vrai que le côté série, le lundi et la semaine prochaine, revenez, on vous dira la suite. J'ai un peu de mal avec ça.
Ah oui, il vous faut tous les épisodes à la
pourquoi.
Suite. Pourquoi Les mauvaises habitudes qu'on prend maintenant. C'est fini, Damien, pour
aujourd'hui. C'est terminé, Nicolas.
Merci, tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes en direct avec Xavier Demoulin et on attend toutes vos questions. Xavier Demoulin est avec nous, vous présentez chaque jour le 19h45, Xavier, sur M6, le journal télévisé du soir, dans lequel, évidemment, vous racontez toute l'actualité du jour. Alors, en ce moment, on est évidemment très Covid-19, comme tout le monde. Non pas que vous n'êtes plus contaminé qu'un autre, après tout, c'est le Covid qui contamine aussi l'actualité. Ouais. Est-ce que, à un moment, le Covid, ça doit faire presque un an maintenant que vous êtes dessus non-stop? Il n'y en a pas un petit peu marre. Est-ce que dans le temps, vous cherchez d'autres sujets avec votre électeur en chef
à
vous dire?
Tout le monde a une overdose du Covid et on a tous envie que ça s'arrête et au plus vite. Je ne vais pas vous dire, ah maintenant c'est génial le Covid, etc. Non, surtout pas. J'en ai franchement marre du Covid, mais c'est là, donc on fait avec. Et oui, ça prend une place très importante dans nos JT. Après, on essaye de toujours trouver aussi des choses positives à raconter aux gens parce que l'actualité anxiogène, ça devient de plus en plus pénible, notamment à faire, à écouter, à entendre, à vivre. Il y a aussi des belles choses qui se passent en parallèle. Et même pendant cette crise sanitaire hors du commun, on a mis, nous, en avant beaucoup, beaucoup d'initiatives personnelles, d'expériences, de solidarité, d'histoire humaine, de gens qui aident les plus démunis à juste se nourrir au quotidien. On a mis ça en avant et je suis très fier de ça parce que ça montre qu'on est un peuple avec ces valeurs-là et qu'il y a des gens en France qui se sont énormément bougés pour les autres. Et ça, ça me touche beaucoup et ça fait partie du côté positif de cette noirceur.
Mais pour le reste, vous êtes dans l'actualité depuis longtemps. Jamais on n'avait vu un événement occuper aussi longtemps, le devant de la scène. Un an non-stop quasiment.
C'est inédit. Et encore, c'est pas terminé. C'est ça qui est le plus dingue. Donc, combien de temps à la finale?
Ça va occuper
l'espace médiatique pendant combien de temps? Personne ne peut le dire.
Est-ce qu'il y a une frustration au bout d'un moment? Alors, on a vu parfois, l'élection américaine a un peu pris le pas sur le Covid pendant quelques jours, on va dire. Encore plus avec le Capitole, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration là-dessus à tourner en boucle, au-delà de tous les sujets que vous faites à côté, dont vous parlez, notamment sur la solidarité des Français? Il n'y a pas une petite frustration à un moment de vous dire on en fait trop, il faut arrêter
Il n'y a pas de frustration. Il y a une frustration de se dire mais pourquoi ça ne s'arrête pas là? La frustration, elle est celle que ressentent tous ceux qui fabriquent, tous ceux qui regardent. C'est qu'on en a ras-le-bol de ce Covid. On a tous une seule envie, c'est de reprendre une vie, on va dire, normale, j'aime pas ce mot, mais une vie où on puisse s'aimer, se voir, se être ensemble, et sortir de ça. Alors, la frustration, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Le traitement de l'actualité, il doit être précis, scrupuleux, et ça, on s'y emploie tous les jours avec la rédaction de M6, c'est sûr.
Alors, ça tombe bien que vous en parliez, parce que justement, le travail scrupuleux, précis, rigoureux, on voit des épidémiologistes, des spécialistes, dire quelque chose un jour, le lendemain, son contraire. Comment on fait quand on est journaliste, qu'on doit faire à 19h45 pendant 20-25 minutes et qu'on veut être sûr de l'information qu'on donne, qui a été contredite déjà 3 ou 4 fois dans la journée.
C'est très compliqué de voir des spécialistes débouler justement sur les chaînes info en permanence, dire tout et son contraire, mais pas que, à la radio aussi, enfin voilà.
Bien sûr, radio, télé, il y en a pas.
Mais les politiques aussi, hein, oui. le masque, pas le masque, c'est nécessaire, non ça sert à rien, enfin on a le droit à tout, et donc effectivement il faut savoir s'adapter, on n'a pas la science infuse non plus, donc on est sur des règles de base de notre métier, et on essaie aussi de désamorcer le plus possible, de démonter le plus possible les fake news qui circulent aussi en nombre. Autre difficulté supplémentaire à la difficulté sur les réseaux sociaux, et donc on fait un travail de ce que les gens appellent, vous savez, sur Internet, les
décodeurs. Fact-checking, en fait, oui.
Voilà, de fact-checking, etc. Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut, de ne jamais présenter quelque chose qui n'a pas été ultra-vérifié et dont nous ne sommes pas sûrs à 200% au moment où on propose cette information.
Ouais. Ouais. Damien,
il y a du monde. Hein. Sur la page Facebook de TV Magazine, on salue Monique, Jean-Claude, Juliana. On va prendre une question de Guillaume.
Beaucoup de femmes, parce que votre JT marche bien sur les femmes.
Hein. Sur les responsables. Femmes responsables des achats de moins de 50 ans, c'est vrai que ça parle.
Je sais.
Alors Guillaume, lui, c'est pas une femme responsable des achats de moins de 50 ans, mais on va quand même poser sa remarque. En fait, il est en train de louer la singularité de votre voix. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous avez toujours eu cette voix, ou bien vous l'avez entretenue à coup de paquet de cigarettes? Comment ça se passe?
Non, j'ai toujours. Ouais. Vous savez, on ne s'entend pas très bien soi-même. Oui. Donc c'est vrai qu'on me parle souvent de ma voix. En me disant, tiens,
on vous en parle, votre voix. Elle est...
Voilà, on me reconnaît à la voix, le timbre, etc. Même avec les masques et tout. Voilà. Non, j'ai toujours une voix. J'ai toujours cette voix-là. Enfin, ouais. Appelez ma mère, tiens, demandez-lui.
Mais à partir de 18 ans, vous avez eu cette voix-là?
13 ans.
13 ans. 13 ans.
Comme ça, 13 ans. C'est très tard pour vous, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
J'ai passé là, je suis désolé.
Pratique pour rentrer en boîte de nuit.
C'est aussi, Damien, non?
C'est gentil, mais pas autant que la vôtre.
Damien, voilà. Il a une barbe à peu près de 3 mois.
Oui, vous voyez, donc, j'arrose.
Il y a de quoi faire. Un petit mot sur le 1945, il existe depuis plus de 10 ans maintenant. Comment on fait pour entretenir un journal comme ça, qui a été précurseur, on va dire, le premier journal présenté debout, tout le monde vous a un peu suivi ensuite, pour le faire évoluer, que les gens ne se lassent pas? Comment ça se passe, Xavier? C'est par petites touches à chaque fois?
C'est par petites touches.
C'est pas évident, il ne faut pas tout changer.
Et surtout, un JT, comme c'est là tous les jours, ça vieillit très vite.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas d'obsession de jeunisme. C'est pas ça l'histoire. C'est qu'on a changé depuis en 10 ans, peut-être 5 fois de plateau, de décor, de lumière. Alors ça joue un détail. Hein. Alors il y a eu la table. Là, aujourd'hui, on est entièrement virtuel. Donc il n'y a rien. Si vous venez sur mon plateau, c'est Gravity, vous êtes sous fond vert et vous flottez, et en face de vous, il y a les gens, les spectateurs qu'il faut accompagner. Et donc, il faut arriver à créer un lien avec eux, avec rien autour que du virtuel, des éléments d'infographie, et donc une information en 3 temps qui passe par la fresque, c'est la grande image qui est derrière, un premier niveau d'information, après qui passe aussi par la RA, les éléments de réalité virtuelle avec des chiffres ou des éléments clés, et puis à ce que dit le présentateur ou la présentatrice. Et donc avec tout ça, on crée un lien, et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande à être réfléchi en quasi... tous les jours. Tous les jours, on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Alors parfois, on change tout, comme dans une maison, puis parfois, on rajoute un petit élément ici ou là, on crée des nouveaux rendez-vous, ça prend du temps. Et puis 10 ans de JT pour créer ce lien quotidien avec les gens, c'est le strict minimum.
Est-ce que justement, côté audience, ça a été une année assez extraordinaire, presque 20% de progression par rapport à l'an dernier, notamment sur les fameuses cibles très importantes pour M6, j'en parlais, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, on ne dit plus les ménagères aujourd'hui. Est-ce que ce succès est aussi dû à l'effet Covid, ou est-ce que tout simplement le 1945 a une place à part dans le...
On a pris 20% en 4+, vous l'avez dit sur la cible FRDA, et plus 25% sur les moins de 50. Donc on parle à vraiment un maximum de gens, c'est un journal qui touche énormément aussi les jeunes. Effet Covid, pas effet Covid, qu'est-ce que je vous réponds à ça? Oui, pendant le confinement, tout le monde a fait des scores.
Les JT ont tous monté, on va dire, sur les autres chaînes.
Voilà, donc je sais pas, ce que je constate, c'est que c'est une rédaction très impliquée, très appliquée, et au quotidien, moi ça fait 10 ans que je fais ça, je pense beaucoup à Élise Lucet en disant ça, parce qu'un jour Élise m'a dit, il faut 10 ans pour faire un présentateur de...
Le JT.
D'info, voilà. Donc j'embrasse Élise. Mais la rédaction, c'est chaque jour, c'est comme si c'était le premier JT, quoi. C'est ça qui me fascine le plus, en fait, dans ce travail. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une espèce de routine qui s'installe, avec une mécanique qu'on renouvelle, qu'on remet en mouvement chaque année, voire plus. Et puis, il y a une nouveauté en permanence, une adaptabilité, et puis cette rédaction qui... Mais chaque jour, on a l'impression qu'on lance le JT pour la première fois. Ça veut dire que ça ronronne pas, quoi. Il n'y a pas de place pour l'endormissement chez nous. Et pour ça, on a une direction de l'information, on a des journalistes, une rédaction, etc., qui, à l'unisson, des gens en région extraordinaires, qui lâchent rien, quoi. Et moi, je trouve ça à observer fascinant.
Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas un peu frustré qu'on parle tout le temps de TF1, France 2, le duel, le 20h, le 13h, et qu'on vous oublie un peu? Alors certes, vous démarrez un quart d'heure avant eux, mais vous avez une bonne partie en commun.
Ceux qui nous oublient, c'est vous, c'est le Figaro, par exemple.
Pas du tout. On ne vous oublie jamais, Xavier.
Il y a des gens très bien au monde ou ailleurs qui ne nous oublient pas.
Mais est-ce que vous avez l'impression que...
C'est vraiment un truc ciblé Figaro, en fait, vous voyez. Et en fait, non, mais la compétition...
19h45 n'est pas un peu déconsidéré, parfois, par rapport aux autres JT?
Mais ça, c'est ce que c'est votre regard de spécialiste qui pense ça, et vous essayez de me faire dire un truc.
Ah non, pas du tout. Moi, je pose la question parce que souvent, je le vois.
Non, mais on ne fait pas la compétition par rapport aux autres ou par rapport à... Ça, c'est de l'ego. C'est du tout à l'ego, donc du tout à l'ego pour moi. On fait ça par rapport à nous-mêmes. Donc, notre idée, c'est de progresser. Ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est qu'on progresse. On a pris 20% là. Donc, on touche de plus en plus de monde. Alors, s'il y en a qui sont bêtes, je suis désolé pour eux, mais voilà, donc on n'est pas déconsidérés. Et puis, on a 10 ans, et les autres messes du 20h, plus classiques, elles ont évidemment beaucoup plus que nous. Donc, on ne les regarde pas de haut non plus, on les respecte. Moi, je respecte chacun de mes confrères et de mes concurrents. J'essaye de faire mon bonhomme de chemin. Voilà, on est souvent devant TF1 quasi tous les soirs sur la cible dont vous évoquiez, sur les FRDA. Ouais. Évidemment, ils sont loin devant en millions et en parts. Bon, ben voilà, cette bonne guerre, il y a de la place pour tout le monde.
Damien. Allez, on va prendre une question de Jérôme qui souligne effectivement qu'on a accès à l'information à chaque seconde sur notre smartphone et puis sur Internet. Est-ce que pour cette raison, le JT ne risque pas de mourir?
Mais non, au contraire, c'est pour ça qu'il risque de continuer.
Ah oui.
Parce que, en fait, l'information, on l'a tous l'information, mais est-ce qu'on a l'explication et la possibilité d'avoir les éléments avec une alerte, un push sur un téléphone pour se faire une opinion? Est-ce qu'on a la possibilité d'expliquer, de décrypter? Donc, au contraire, il n'y a jamais eu autant de besoin. On n'est pas là pour annoncer ce qui s'est passé, des gens le savent. On est là pour essayer d'expliquer sur les grands sujets comment ça marche, pourquoi, comment ça marche le vaccin, pourquoi la campagne de vaccination, elle est en retard, qu'est-ce qui se dit de tous les côtés, pour essayer après... En agglomérant tout ça, essayer de donner la possibilité aux gens de se faire posément et calmement une opinion par eux-mêmes. Voilà, c'est tout. C'est ça aujourd'hui. Mais votre auditeur a raison, tout est sur le téléphone. Mais il n'y a jamais eu autant besoin, je pense, que d'un média un peu posé qui explique, décrypte et puis aussi... désintoxifie les choses, quoi. Avec les fake news, on le voit, on a besoin de médias sûrs.
Gilles Boulot, il y a un an dans TV Mag, le présentateur du 20h1 de TF1, notamment l'un de vos concurrents, disait « le JT est éternel ». Est-ce que vous pensez comme lui?
Ouais, je pense comme lui, et ça va être de pire en pire en fait. Ouais. Parce que je vous dis, avec les fake news, avec les algorithmes qui arrivent, alors évidemment l'algorithme c'est quand même très, ça c'est un vrai sujet, mais il y a des élections qui vont arriver, etc. Donc il faut, je pense que on s'est régénéré, on s'est réinventé par nécessité, avec l'époque. C'est plus le même JT qu'il y a 20 ans. Avant, les gens venaient prendre les nouvelles.
Oui.
Aujourd'hui, moi, je pense qu'ils viennent comprendre les nouvelles.
Qu'ils ont déjà eu toute la journée,
Exactement.
Évidemment, sur TF1. Un petit mot juste sur Jean-Pierre Pernaut. Ça a été le grand fait d'actualité de cette fin d'année, la retraite de Jean-Pierre Pernaut. 33 ans de JT. J'imagine, comme tout le monde, que vous avez salué le parcours. C'est absolument incroyable ce qu'a réalisé Jean-Pierre Pernaut. 42% de part d'audience sur un JT.
L'audience, incroyable, mais l'homme, avant l'audience, c'est quoi le résultat, vous? C'est quand même dingue. L'homme, revenez à vos humanités. Jean-Pierre Pernaut, l'homme, l'individu, l'implication. Je parlais de la fraîcheur du premier JT. Ouais. Tous les jours de 33 ans, arriver avec cette énergie-là.
Et ce concept qu'il a lui-même inventé. Hein,
oui, ce concept qu'il a inventé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre, que j'embrasse, et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a des années, à l'époque où j'étais journaliste média. Et voilà, c'est un monstre télévisuel, mais j'en ai connu d'autres que j'aime aussi beaucoup. Je pense à PPDA. Voilà, ça fait partie de ces monuments Voilà, c'est une génération de monuments de la télévision française.
Est-ce que vous pensez justement que Jean-Pierre Pernaut est parti, Marie-Sophie Lacaron a pris sa place. On le voit quand Jean-Pierre Pernaut était en vacances, son remplaçant Jacques Le Gros faisait les mêmes scores que lui. Est-ce que la star, c'est plus le JT ou est-ce que vous pensez quand même que TF1 risque de perdre un petit peu de
téléspectateurs? J'ai l'impression, si j'ai suivi, et c'est qu'elle s'en sort très très bien et que les scores sont plutôt excellents.
Donc, c'est à peu près pareil.
Ouais. Non, mais vous savez, je pense que c'est une histoire d'alchimie, en fait. Il faut que vous puissiez vous créer un contact, que les gens vous ouvrent leur porte. Et puis, effectivement, derrière, il y a tout un travail de rédaction. Et il y a des centaines de gens qui tricotent un JT tous les jours. Donc, ce n'est pas que le présentateur, mais c'est aussi le présentateur, vous voyez. Mais c'est vrai que je parlais de PPDA ou de Pernaut, ou de Mourouzi à eux, ces monstres-là, ils ont créé un lien unique avec les gens.
Alors évidemment, le JT, c'est bien, il y a aussi cette routine dont vous avez parlé. Et pour en sortir de cette routine, vous écrivez également. Vous avez deux moulins, on va parler de votre livre maintenant. Votre huitième roman aux éditions Flammarion, ça s'appelle Mon garçon. Alors généralement, quand on emploie ce mot, on voit la magnifique couverture. Quand on emploie ces deux mots, c'est qu'on s'adresse à un enfant et qu'on va lui dire quelque chose d'important. En général, quand on dit « mon garçon », quel message vous allez faire passer dans ce livre et que va raconter ce papa à son enfant?
Alors,
pour que ça commence par « mon garçon », en général, ça suit par « écoute », non? En général,
là, quand j'écris un roman, j'essaye d'éviter de faire passer des messages. Je suis plutôt un écrivain…
Vous n'avez pas de garçon, d'ailleurs. Vous n'avez que des filles.
Je fais des garçons dans mes romans et j'ai des filles dans la vraie
dans
vie.
Dans la vraie vie.
J'ai réparti ma vie comme ça. Ensuite, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui ne se sont pas vus depuis 2 ans et qui vont, par des circonstances très particulières, à savoir un accident de scooter, se retrouver. Le père vit au Canada, le fils a eu un accident de scooter à Paris. Donc, il revient en France pour s'occuper de son garçon. Et c'est une tentative de dialogue entre un père et son fils qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Le père va l'emmener en voiture sur prendre la route. C'est une sorte de book movie, direction la Camargue. Et dans ce long voyage, voilà, il y a une tentative de dialogue qui va se faire. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant de 16 ans qui a toujours comme ça sur son portable, qu'on n'a pas vu depuis 2 ans dans une voiture? C'est tout l'objet du roman.
Il sort d'un chagrin d'amour très fort.
Hein. Alors, c'est un livre sur le premier amour, la force du premier amour. Ça, Damien va connaître ça peut-être un jour.
Bien sûr.
Il est si jeune. Et comment on s'en remet et comment ça nous construit aussi. Et finalement, c'est un livre que je dirais qui parle aussi beaucoup de consolation. Mais aussi du père qui va revisiter son adolescence à travers l'épreuve que vit son garçon.
Le thème, c'est plutôt le chagrin d'amour.
C'est le chagrin d'amour, la réparation, la consolation et puis la transmission. C'est très difficile aujourd'hui, quand on est parent, de donner des conseils à des enfants. Parce qu'on a l'impression de leur dire, voilà, si tu comprends ça, ma fille, à 14 ans, tu vas gagner 10 ans. Ouais. Mais elle s'en fout de gagner 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Cette espèce de pas de côté comme ça, on se croise. Et surtout, ça, c'est un livre qui parle d'amour. Ouais.
Alors, évidemment, là-dessus, sur l'amour, vous, quelle est la chose la plus folle ou la plus stupide que vous ayez fait par amour?
D'abord, j'ai appris à m'aimer moi-même. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fou à faire en amour, en fait.
Ouais.
Non, mais
c'est jamais évident.
Non, mais
là,
y a pas, avant d'attendre d'aimer quelqu'un, il faut déjà essayer de se supporter soi-même. Non, le truc le plus fou que j'ai fait par amour, c'est des enfants, bien sûr. Il n'y a pas rien de plus dingue. C'est pas de traverser les frontières ou de faire le tour du. Non, juste de faire
des. En scooter sous la pluie.
Non, mais c'est très romantique.
Bien sûr.
Mais ouais. La preuve ultime d'amour, c'est quand même d'avoir des enfants, c'est un pari dingue. Damien.
J'y réfléchis très sérieusement. On va prendre une question de Vincent qui remarque que vous écrivez, c'est vrai, beaucoup de romans, mais est-ce que vous aimeriez aussi écrire des livres journalistiques, des grandes enquêtes comme
Absolument
on le voit?
Absolument pas.
Pas du tout, ah, ça
non.
vous dit?
Non, moi je...
Les essais, comme on dit. Hein.
Non, je suis très clair là-dessus. Moi, j'ai une activité d'écrivain. Ouais. Je fais 8 romans. J'aime le roman, c'est un mode d'expression. Voilà. Et le reste, le journalisme, je le fais par ailleurs, dans mon journal, dans 66 minutes. Donc le livre enquête, etc., c'est pas du tout ce qui m'intéresse et me préoccupe pour l'instant.
Le livre, évidemment, peut s'adresser à tout le monde, mais est-ce qu'on peut aussi bien lire quand on est un père ou est-ce qu'on peut le faire lire à son ado de 16 ans, par exemple?
Non, je pense qu'on doit... Enfin, je sais pas, j'aimerais beaucoup qu'effectivement un père le lise ou une mère le lise, l'offre à son... l'offre à son mari et après... le dépose sur l'oreiller de son adolescent. Y a-t-il encore des adolescents qui lisent des livres? Je pose la question. Le débat est
si on les force un peu, on peut, mais.
Mais il ne faut pas forcer.
Non,
pas forcer,
mais il faut aimer. Au début, au début.
Allez, on ne peut pas forcer les gens, ni pour vous aimer, ni pour lire. Ça, c'est un truc, ça vous arrive un jour ou pas. La lecture, moi, c'est, ça m'est tombé dessus quand j'avais quoi, les 14, 15 ans. Avant, je lisais, je n'ouvrais pas un livre. Et aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans lire. Donc, on ne m'a pas forcé, si je vous mets un pistolet sous la tombe, « Lis ce livre, comme il est formidable !»
À l'école, on force les enfants à les lire.
C'est le problème. C'est le problème du système éducatif français. Il faut arrêter de forcer les enfants à lire. Il faut leur donner le goût de lire. Il faut arrêter de forcer les gens. Il faut leur donner juste l'envie. C'est ça que je dis. Mais j'espère en tout cas que ce livre-là parlera à toutes les familles.
Alors, l'un de vos livres, notamment Un quoi apprendre, avait été adapté au cinéma, on s'en souvient, avec Manu Payet. Est-ce que vos romans ont, j'allais dire, vocation à être adaptés? Est-ce que vous avez envie de le faire, de travailler? Est-ce qu'on vous a fait d'autres propositions sur d'autres livres?
Non, mais des romans qui sont optionnés à l'étude, il y en a, etc. En a... Après, ça ne vous aura pas échappé que le cinéma, en ce moment, est vraiment grande pensée. À tous les amis du secteur, c'est très très compliqué, donc, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà. Après, est-ce que moi j'aimerais un jour ou pas pourquoi pas j'aimerais, moi j'ai
écrire
un livre.
Pour le cinéma
non,
ou
mais peut-être adapter un de mes livres, je ne sais pas. Il y en a deux auxquels je pense, Charles Draper et Les Hautes Lumières, qui sont deux romans que j'ai fait précédemment. Pourquoi pas, un jour je prendrai le temps de travailler avec ça, mais pas tout seul, évidemment. Mais c'est pas, quand on écrit un roman, on pense pas à l'adaptation. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça. Je pense à rien d'autre, d'ailleurs, qu'à mes personnages qui me hantent et qui m'habitent.
Et série ou film, c'est quelque chose qui vous tenterait? Pas du tout la même écriture, hein,
non, c'est vraiment autre chose. Autant je pense que l'écriture de série et de film peut éventuellement servir dans un travail romanesque à certains moments, autant je pense que le travail romanesque ne peut rien dans le travail d'un scénario de film ou de série. Et la série, c'est devenu vraiment une industrie très particulière où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Non, je dis, pourquoi pas un jour, mais c'est pas une envie première, là, tout de suite, maintenant.
Damien, on prend une dernière question, on passe à notre rubrique.
Eh bien, Rémi souhaite savoir ce que vous avez pensé lorsque le gouvernement a décidé de fermer les librairies.
Ah. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que les librairies, c'est une chose, mais il y a le livre, il se vend aussi. Il n'y a pas des librairies partout en France. Ouais. Il y a aussi des espaces culturels dans lesquels le livre est présent et qu'on a mis tout le monde au même niveau, en fait. Donc, quand j'ai vu des bâches mettre dans certains endroits pour empêcher les supermarchés, notamment les hyper et autres, il y a des tas de régions en France qui n'ont pas accès aux librairies, et c'est là que les livres se trouvent. Quand on a bâché les livres pour un principe en fait un peu égalitaire, que je peux comprendre, mais j'ai trouvé ça absurde. C'est absurde. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le livre est en bonne place, et que les librairies sont ouvertes, et que les autres espaces où les livres sont encore accessibles. Et croisons les doigts pour que ça continue, parce que le livre, lire, peut sauver la vie. Mais vraiment, j'en suis le premier témoin.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que moi, ça m'a vraiment sauvé, quoi. La lecture, l'écriture, ça m'a énormément aidé dans ma vie. Énormément aidé. Quand on arrive à prendre le temps et à rentrer dans une histoire. Vous savez, il y a des livres qui vous aident à traverser la vie, tout simplement. Il y a des livres qui sont des révélations, il y a des adolescents, pas adolescents, en fonction de votre vie, il y a des œuvres entières qui peuvent vous accompagner et qui sont des moments, voilà, ça prend pas beaucoup de place, un livre.
Merci Xavier de Moulin, on passe à notre rubrique de fin, le fameux sucré salé. Sucré salé, c'est notre rubrique de fin, comme d'habitude. Je vais vous donner deux propositions. Il va falloir choisir, c'est très difficile. C'est comme ça, c'est comme dans la vie. Vous êtes sucré, vous êtes salé. Si je vous propose Nathalie Renaud ou Ophélie Meunier, à qui vous choisirez?
Mais ça, c'est vraiment...
Ouais, c'est moche. Je démarre direct par ça. Ensuite, je vais vous demander entre vos enfants. Hein, donc, préparez-vous.
Nathalie et Ophélie sont en qu'une Karine Guilloc.
ça, c'est bien joué. Plutôt Bernard de la Villardière ou Julien Courbet? Je parle plutôt de leurs émissions.
Non, Bernard.
Plutôt Bernard.
Bernard, ouais. Ouais. J'aime bien Bernard. Ouais.
Voilà. Nous aussi, on l'aime beaucoup, surtout quand il passe ici.
Il viendra nous voir.
Ouais, c'est un personnage. C'est vrai. Julien, je t'embrasse.
Thierry Ardisson ou Michel Denisot? Deux styles assez différents, vous connaissez Ardisson. Les deux. C'est plutôt Ardisson. Par rapport à quoi? La filiation, quelque chose?
Non, mais il a créé Paris Dernière, j'ai fait Paris Dernière pendant 4 ans. Ouais. Michel Denisot, que je respecte énormément, voilà, je n'ai pas travaillé avec lui directement plus que ça. Donc, non, okay. Plutôt Ardisson.
Plutôt Ardisson. 19h45 ou 66 minutes? S'il fallait choisir.
C'est vraiment...
Mais demain, alors... Thomas Valentin vous dit, tu ne peux en garder qu'un. Non, lequel vous gardez?
Non, je dirais, moi je prends les deux, voilà.
Deux. Mais non, mais il vous demande d'en garder qu'un.
Non, mais m'embête celui-là, je dis j'aime les deux. Zemmour, ça met les deux équipes, en fait.
Zemmour ou Nolo?
Ah ben, Nolo, merci. Là, je suis clair.
Journaliste ou romancier? À choisir.
Romancier, journaliste ou romancier?
Demain on vous dit, tu ne peux plus faire qu'une seule chose.
Claude Roy.
Claude Roy.
Ouais, renseignez-vous, allez.
Oui, hop, d'accord, ok. Google. Journaliste, romancier. Mais non, mais.
Allez.
Vous n'aimez pas à choisir. Hein.
C'est pas ça, c'est que je suis bien dans ma schizophrénie. Alors laissez-moi tranquille avec ma schizophrénie. Là, c'est pas choisir. C'est se tirer une balle dans le pied au mieux.
On vous laisse avec votre schizophrénie, Xavier Degoulin. Merci d'être passé nous voir en tout cas.
Merci.
On vous retrouve tous les soirs.
Je reviendrai peut-être.
À 19h45 sur M6. Et évidemment, le week-end avec 66 minutes. On rappelle que votre dernier roman, Mon garçon, est en librairie. Vous pouvez également le commander, hein, évidemment, sur les sites marchands. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Et nous, Damien, on se retrouvera demain matin.
Oui, avec une actrice qui a cartonné sur TF1 lors du lancement de cette mini-série. Ça s'appelle La Promesse. On recevra l'héroïne de cette fiction qui joue aux côtés d'Olivier Marchal. Il s'agit de Sophia Essaïdi.
Oui, vous avez fait exactement. Ça juste le jour où je ne suis pas là.
Écoutez, c'est tant pis pour vous, Nicolas.
On en parlera.
On RTT ce jour-là.
Ce sera dès demain à partir de 10h.
Bien joué.
Bonne journée à toutes et à tous.
Bien joué, Damien.
Ah, bah. Ha ha ha.